VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 27 novembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Hommage des présidents du Mali, du Niger et du Burkina Faso après la mort hier de 13 militaires français dans une collision d'hélicoptères pendant une opération de combat au Mali.
En République démocratique du Congo, deux autres manifestants tués à Beni dans l'est du pays dans les protestations contre l'inaction des autorités et de l'ONU face au massacre de civils attribué aux ADF.
Les Namibiens appelés aux urnes ce mercredi pour des élections générales devant confirmer la mainmise de la SWAPO sur le pays depuis 1990, malgré la crise économique et les allégations de corruption.
En Égypte, Amnesty International accuse les services du président Abdel Fattah al-Sisi d'utiliser une justice parallèle au service de la répression.
Ici à Washington, la commission judiciaire de la Chambre des représentants a invité le président Donald Trump ou ses avocats à venir se défendre lors d'une audition le 4 décembre au Congrès.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont exprimé hier leur solidarité avec la France après la mort de 13 soldats français de l'opération Barkhane dans une collision accidentelle de deux hélicoptères au Mali. Le point avec Irénée Herman Umbo.
Vous avez dit à juste titre que ces soldats sont morts pour la France. J'ajouterai qu'ils sont morts pour le Mali, qu'ils sont morts pour le Sahel, qu'ils sont morts pour la liberté, qu'ils sont morts pour l'homme, a dit le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dans un message de condoléances adressé à son homologue français Emmanuel Macron. Dans un message également posté sur Twitter, le président burkinabé Roch Marc-Christian Kabore salue la mémoire des soldats disparus et adresse ses sincères condoléances à leurs familles ainsi qu'à l'ensemble du peuple français. Le président nigérien Mohamedou Issifou a fait de même sur Twitter suite à la mort tragique de 13 soldats engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme. Il a exprimé toute sa solidarité et sa compassion pour les familles. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en proie aux violences djihadistes et l'opération française Barkhane combat aux côtés des armées nationales de ces pays.
Les 13 militaires ont péri pendant une opération de combat dans le Liptako, dans la région de Ménaka, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. La force Barkhane y mène régulièrement des opérations contre les groupes armés, dont le groupe État islamique au Grand Sahara. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013 et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat contre le QG français Drakkar à Beyrouth en 1983. Qui avait fait 58 morts.
En République démocratique du Congo, deux personnes ont été tuées mardi dans l'est du pays, dans de nouvelles manifestations d'habitants à Beni et dans la ville voisine de Butembo. Ces protestataires continuent de dénoncer ce qu'ils appellent l'inaction des autorités et de l'ONU face au massacre de civils attribué au groupe armé ADF, responsable de la mort de 80 personnes depuis le 5 novembre. Et à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné non seulement les attaques contre les civils, mais aussi contre des installations onusiennes, et ce lors d'une réunion sur ces émeutes anti-ONU qui ont fait depuis lundi au moins 6 morts à Beni.
RDC toujours, inondations, glissements de terrain et électrocutions ont fait au moins 41 morts hier à Kinshasa. Des détails avec Bagassi Koura.
Le vice-gouverneur de Kinshasa, Néron Mbungo, affirme que les dégâts matériels et humains sont énormes, ajoutant que le bilan est encore provisoire. 80% des dégâts sont causés par des constructions anarchiques, a-t-il précisé. Parmi les victimes figure un enfant électrocuté. Les quartiers populaires, principalement sur les hauteurs de Kinshasa, Kisenso, Lemba et Mont Ngafula, ont été les plus touchés. Une quinzaine de personnes sont mortes à Lemba, selon le bilan provisoire. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu sur les lieux hier. Troisième ville la plus peuplée d'Afrique, Kinshasa compte quelque 10 millions d'habitants, avec une population qui a doublé en 20 ans, selon les estimations. Aucun recensement n'a été réalisé depuis des décennies.
Le Kenya devrait se doter d'un poste de premier ministre. C'est la recommandation d'une commission dans une série de propositions destinées à renforcer l'unité du pays et à sortir du cycle des élections violentes. Abdourahmane Dia.
Ce rapport très attendu, établi après plusieurs mois de consultations dans tout le pays, a été remis hier au président Uhuru Kenyatta en présence du vice-président William Ruto et de l'opposant Raila Odinga. Cette commission avait été créée après la poignée de main en mars 2018 entre les deux rivaux, M. Kenyatta et Odinga. Avec ce geste symbolique, les deux hommes avaient promis de tirer un trait sur la réélection contestée de M. Kenyatta et de réconcilier le pays. Le schéma envisagé par la Commission, qui nécessiterait une réforme de la Constitution, prévoit que le président reste le chef d'État et de gouvernement. Le premier ministre serait chargé de superviser et gérer les affaires courantes du gouvernement. Le Kenya n'a eu que deux premiers ministres dans son histoire. Jomo Kenyatta, le père de l'actuel président, en 1963, avant de devenir chef de l'État, et Raila Odinga, dans un gouvernement d'union nationale entre 2008 et 2013. La fonction avait été supprimée par la Constitution de 2008. Destiné à sortir de la crise électorale de 2007-2008.
Les Namibiens sont appelés aux urnes ce mercredi pour des élections générales pour confirmer la mainmise sur le pays de la SWAPO, le parti au pouvoir depuis 1990, et ce malgré la grogne croissante de la population contre la crise et la corruption. Face à une opposition désunie, le président sortant Hage Geingob, qui est âgé de 78 ans, et son parti semblent assurés de rempiler pour 5 ans, en dépit d'un bilan des plus contrastés.
Amnesty International, dans un rapport publié aujourd'hui, a accusé les autorités égyptiennes d'utiliser un système de justice parallèle dans le but de réprimer toute opposition au président Abdel Fattah al-Sissi. Selon Katia Roux d'Amnesty International, en Égypte, la situation empire, la répression se durcit. Et elle a ajouté, dans l'Égypte de Sissi, tous les détracteurs du gouvernement sont perçus comme des terroristes potentiels.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Gerald Nadler, a invité hier le président Donald Trump ou ses avocats à participer à une audition le 4 décembre, audience qui marquera l'ouverture d'une nouvelle phase de l'enquête en destitution ouverte à son encontre. La commission judiciaire est chargée de rédiger les éventuels articles de mise en accusation du président Trump. Les démocrates l'accusent d'abus de pouvoir à des fins personnelles, notamment en gelant une aide militaire pour faire pression sur Kiev. L'objectif, selon eux, obtenir une enquête ukrainienne sur l'ancien vice-président Joe Biden, un de ses adversaires potentiels à la présidentielle de 2020.
En Irak, 6 personnes ont été tuées dans des explosions quasi simultanées hier soir à Bagdad, venant s'ajouter aux violences qui déchirent depuis 2 mois le pays. Pays confronté à la crise sociale la plus meurtrière de son histoire récente, Eric Madirakidza.
Selon des sources médicales et policières, les attaques à la moto piégée ou à la bombe ont fait 6 morts dans 3 quartiers chiites de Bagdad où les attentats ont drastiquement décru depuis des mois. 2 manifestants ont été tués hier dans le cœur historique de Bagdad, devenu champ de bataille, et dans la ville sainte chiite de Karbala, plus au sud. Les manifestants jettent des pierres face aux tirs parfois à balles réelles des forces de l'ordre. Ces violences, qui ont déjà fait plus de 350 morts en 2 mois, ont gagné plusieurs villes du sud. Dans la province de Zikar, les protestataires bloquent les accès à 3 champs pétroliers de Garaf, Nasiriyah et Souba. À Diwaniya, des milliers de manifestants bloquent les ponts et les autoroutes menant vers le nord, le sud et l'ouest. À Al-Hila, 60 de manifestants ont été blessés par des tirs de grenades lacrymogènes. Les protestataires réclament le renouvellement total de la classe politique, jugée corrompue et incompétente.
2 roquettes ont été tuées mardi de la base de Gaza vers le sud d'Israël, a indiqué l'armée israélienne, ajoutant avoir répliqué avec une série de tirs ciblant le Hamas 2 semaines après un épisode de violence entre l'État hébreu et un groupe armé à Gaza. Des avions de chasse ont frappé des cibles terroristes du Hamas et dans la bande de Gaza, a indiqué tôt ce matin l'armée israélienne dans un communiqué.
L'Albanie observe ce mercredi une journée de deuil national au lendemain d'un puissant séisme qui a fait plus de 20 morts, alors que les secouristes redoublent d'efforts pour trouver des survivants dans les décombres. Sous l'effet du plus puissant séisme a frappé ce pays des Balkans depuis plusieurs décennies, des bâtiments se sont effondrés, piégeant les victimes sous des montagnes de gravats. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La société pétrolière néerlandaise Ouandias a conclu un accord avec le gouvernement gabonais qui lui permet de conserver ses droits dans la production du projet Koué jusqu'en 2036, avec la possibilité d'y augmenter ses intérêts. Koué a atteint son pic de production de 43 000 barils par jour en 2001. Situé à environ 20 km au large des côtes gabonaises, le projet Koué est co-géré avec le producteur franco-britannique Perenco. La mine d'or Ouagnon au Burkina Faso est entrée en phase de production commerciale. L'usine de traitement fonctionne maintenant à pleine capacité et les taux de récupération d'or sont supérieurs à 90%. En 2020, Teranga Gold se consacrera à l'optimisation du plan minier et à l'ajout de réserves pour prolonger la durée de vie actuelle de 13 ans de la mine. Ouagnon devrait terminer cette année avec une production de près de 40 000 onces. La mine est détenue à 90% par Teranga et à 10% par le gouvernement burkinabé. Pour terminer, en Namibie, l'explorateur Global Petroleum indique que le réservoir de carbonate dans le puits Welwitschia Deep à lui seul peut contenir 772 millions de barils de pétrole avec une probabilité de succès de 15%. La firme se dit confiante en la capacité de ses équipes techniques à identifier d'autres prospects porteurs d'huile une fois qu'elle aura autorisé et interprété le reste des données sismiques 2D et 3D pour le bloc.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Esaé du Bénin privé de son stade en Coupe CAF.
Oui, Esaé FC ne pourra pas utiliser les installations du stade René Pleven de Cotonou pour ses matchs de poule en Coupe de la Confédération. Ce stade, qui a pourtant abrité toutes les rencontres préliminaires de la compétition, n'a pas été homologué par la CAF. Le club béninois jouera donc ses matchs de la phase de groupe à Porto Novo, entre autres griefs portés à l'encontre du stade René Pleven de Cotonou, la vétusté de la pelouse en synthétique, le manque de cabines de presse, de salles de conférences de presse, des vestiaires pas aux normes. Esaé fera donc face au DC Motoma Pembe de la RDC le 8 décembre au stade Charles de Gaulle de Porto-Nouveau.
Les Amalek boycottent la Supercoupe d'Afrique.
Le président de la formation égyptienne, Mortada Mansour, a annoncé la décision du club de ne pas disputer la finale de la Supercoupe d'Afrique programmée par la CAF le 14 février prochain au Qatar. Cette Supercoupe d'Afrique devrait opposer l'Espérance sportive de Tunis, vainqueur de la Ligue des champions, aux Amalek d'Égypte, champion de la Coupe CAF. Le club Kairot explique cette décision par la tension qui oppose l'Égypte au Qatar. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis 2017.
Achille Webbo, nommé entraîneur adjoint d'Istanbul Başakşehir.
Oui, l'ancien international camerounais de 37 ans entame ainsi sa reconversion. Pierre-Achille Webbo va aider l'entraîneur en chef Okan Buruk pour élever le niveau du club turc qui est en quête du premier titre de son histoire. Après son aventure espagnole à Osasuna, Leganés et Majorque, l'ancien attaquant des Lions Indomptables a entamé celle turque avec Istanbul Başakşehir entre 2011 et 2013. Achille Webbo a mis fin à sa carrière de joueur depuis la résiliation de son contrat en 2018 au National en Uruguay.
Ligue des champions ce soir.
Oui, Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keïta reçoit Naples à Anfield avec une revanche à prendre sur le Napoli, victorieux de la manche aller 2-0 début septembre. En cas de succès, le champion d'Europe en titre ferait coup double, qualification et première place du groupe E assurée. Autre équipe proche du but, le FC Barcelone peut aussi assurer sa présence au prochain tour en cas de victoire face à Dortmund. Pour conserver l'espoir d'une qualification, eh bien l'Inter de Milan doit s'imposer en République tchèque face au Slavia Prague. De son côté, Lyon peut valider son ticket pour les huitièmes de finale à condition de battre le Zénith Saint-Pétersbourg. Déjà éliminé, Lille reçoit l'Ajax pour relever la tête après trois défaites et un match nul. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Deux matchs seulement, les Clippers et Dallas 114 à 99, Denver et Washington 117 à 104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Une affaire de maltraitance d'enfants défraie la chronique au Sénégal. Un maître coranique, un menuisier métallique et des parents d'élèves sont envoyés en prison dans la région de Louga, dans le nord du pays. Ceci après la découverte d'enfants enchaînés dans une école coranique. Les prévenus doivent s'expliquer devant le juge aujourd'hui. Abdourahmane Dia a joint à Dakar le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama.
Le maître coranique et les parents, ainsi que le ferrailleur, seront jugés demain au tribunal de Louga. Donc le procureur de la République a fait son travail et nous attendons à ce que le juge qui va juger cette affaire applique la loi. Ils sont poursuivis pour maltraitance et mise en danger de la vie des enfants. Les parents sont poursuivis pour complicité. Nous attendons à ce que la loi soit appliquée de façon ferme contre toutes ces personnes. Cette pratique semble être une pratique très courante dans les daras, très ancienne dans les daras. Il faut donc que l'État sévisse pour qu'elle puisse prendre fin.
Et il y aurait aussi des pressions sur les autorités judiciaires. On a également vu la sortie de plusieurs membres de cette communauté de maîtres coraniques pour soutenir leurs collègues.
Oui, vous savez, tous ces maîtres coraniques sont opposés à la réforme de l'enseignement coranique au Sénégal. Non seulement ils veulent continuer à exploiter les enfants, mais ils veulent continuer à utiliser le châtiment corporel, la mendicité. Et il appartient à l'État de respecter ses engagements internationaux. L'État s'est engagé récemment devant le Comité des droits de l'homme à mettre fin à la mendicité des enfants, à mettre fin à la maltraitance des enfants, en adoptant notamment le Code de l'enfant dont le projet de loi existe depuis maintenant plusieurs années, mais n'est pas encore voté à l'Assemblée. Donc il faut que ce projet soit adopté, que ce code soit adopté. Le code prohibe non seulement la mendicité des enfants, mais toutes les formes de maltraitance des enfants, y compris dans les écoles coraniques. Jusqu'ici, les maires coraniques sont opposés à son adoption, mais je crois que le moment est arrivé pour que la société civile pousse pour son adoption et qu'évidemment, il puisse permettre de mettre fin à ces maltraitants.
Et pourquoi, en fait, la réforme traîne et pourquoi même l'interdiction de la mendicité des enfants traîne? Est-ce que l'État aurait peur de froisser certaines couches de la société?
Absolument. Vous savez, les pressions dont on parle depuis quelques jours viennent de marabouts très puissants. On parle de pressions qui viennent d'une grande cité religieuse du pays. Donc ce sont des marabouts puissants qui soutiennent ces maîtres coraniques. Ces maîtres coraniques sont des talibés de ces marabouts-là. Donc ils les soutiennent. Malheureusement, ça ne peut pas continuer. L'État ne peut pas continuer à laisser faire cette maltraitance des enfants. Donc il faut que clairement ces grands marabouts, parce que l'attitude est déplorable et que cette maltraitance n'est ni recommandée par le Coran, nulle part dans le Coran, nulle part dans la Sunna, dans les hadiths, on trouve une recommandation qui dit que pour éduquer un enfant, il faut le maltraiter. Ça n'existe nulle part. Au contraire, ce type de maltraitance est prohibé par toutes les religions révélées.
Le militant sénégalais des droits de l'homme, Seydi Gassama, joint hier à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Comme vous le savez, ici à Washington, le président Donald Trump est confronté à une procédure en vue d'une mise en accusation pour son éventuelle destitution que l'on juge au demeurant fort peu probable. L'enquête parlementaire en cours à la Chambre des représentants n'est que le début de ce qui est prescrit par la Constitution des États-Unis. Steve Reddish de la Voix de l'Amérique offre ici un aperçu historique que vous présente Idriss Fall.
La mise en accusation est mentionnée 6 fois dans la Constitution américaine qui, cependant, ne précise pas comment elle doit être effectuée. L'article 1er de la Constitution donne à la Chambre des représentants, la Chambre basse du Congrès, l'unique pouvoir d'initier la procédure. La Chambre mène l'enquête, rédige ensuite des articles de mise en accusation. On vote à la simple majorité des 435 membres est nécessaire pour mettre en accusation un président. Cette mise en accusation ne signifie pas automatiquement destitution. Une fois que la Chambre l'approuve, le président est officiellement accusé et inculpé. Le dossier est alors transmis au Sénat. la Chambre haute tient un procès présidé par le président de la Cour suprême des États-Unis. Les voix des deux tiers des 100 sénateurs sont nécessaires pour décider la condamnation et la révocation d'un président. Suzanne Lowe Block de la Fac de droit de l'Université Georgetown, ici à Washington.
Destituer le président des États-Unis avant une élection est une chose radicale. La Constitution ne veut pas ça et ne veut pas que ça se produise souvent. Alors, ils ont placé la barre très haut. Les deux tiers, 67 sénateurs, et oui, ça doit se faire avec les deux partis.
L'article 2 de la Constitution américaine énonce les critères et la punition. Un président peut être destitué s'il est reconnu coupable de trahison, corruption et autres crimes et délits graves. 14 juges américains et un juge de la Cour suprême ont été mis en accusation. 9 ont été condamnés et limogés. 4 présidents américains ont fait l'objet d'une enquête parlementaire de la Chambre. 2 ont été mis en accusation et aucun n'a été condamné. Andrew Johnson a été mis en accusation en 1868 pour avoir limogé le secrétaire à la guerre sur les oppositions répétées du Sénat aux droits civiques des esclaves noirs qui venaient d'être affranchis. Plus de 100 ans plus tard, en 1974, Richard Nixon a démissionné avant un vote de mise en accusation après un cambriolage au siège du Parti démocrate et la dissimulation de ce crime. Bill Clinton a été de son côté mis en accusation en 1998 pour avoir menti sous serment au sujet d'une relation sexuelle avec la stagiaire Monica Lewinsky. Et maintenant, Donald Trump fait face à une enquête parlementaire de la Chambre dominée par les démocrates pour avoir demandé à un gouvernement étranger d'enquêter sur un potentiel rival politique. Les audiences publiques viennent de se terminer et un vote de mise en accusation devrait avoir lieu avant la fin de l'année. Mais c'est le Sénat, dominé par les Républicains, qui aura toujours le dernier mot.
Au Cameroun, comme dans le reste du monde, on suit de très près cette affaire d'impeachment. Emmanuel Julntap.
Le lieutenant-colonel Alexander Weidmann, membre du Conseil de sécurité à la Maison-Blanche, qui témoigne contre l'actuel locataire de la Maison-Blanche, l'image a marqué quelques Camerounais dans le cadre des enquêtes en cours pour une éventuelle destitution de Donald Trump.
Je salue la force de la loi qui ne regarde pas que ici c'est un président, ici c'est un citoyen.
On ne peut que apprendre des États-Unis. C'est l'exemple type de la démocratie. Si les autres pays du monde pouvaient suivre ça, ne pas toujours attendre les élections pour chasser les dirigeants qui ont failli.
Le sujet Trump s'est imposé dans les salles de rédaction du pays. Faustin Dikam est directeur de publication du Tribune d'Afrique. Il pense que les accusations portées jusqu'ici contre le président Trump ne surprennent guère au regard du parcours de ce dernier.
Donald Trump, un homme d'affaires très puissant qui est arrivé en politique. Lorsqu'on met les deux ensemble, on se rend bien compte qu'il ne peut pas avoir travaillé dans ces deux conditions sans avoir des petits amis, entre guillemets, au niveau des services de renseignement. Mais en politique, il faut savoir que nous sommes généralement sur un terrain totalement impitoyable.
Spécialiste des questions internationales, le journaliste Sismondi Barlef Bichoka entrevoit plutôt dans la procédure actuelle l'éternelle bataille préélectorale entre démocrates et républicains.
Le renseignement, tous ont toujours fait ça. C'est de bonne guerre. Sauf que pour Trump, à la dernière minute, c'est su. Et il était dans une guerre de renseignement, d'information avec ses concurrents démocrates. Ils ont voulu montrer à Trump que puisque tu utilises le renseignement, nous aussi on va utiliser. Mais de mon point de vue, je pense pas que ça puisse avoir de très grandes conséquences sur la fin de son mandat. Ça va quelque peu jouer là-dessus.
Au regard des relations entre le Cameroun et les États-Unis, marquées ces trois dernières années, par des critiques acerbes de Washington vis-à-vis de Yaoundé, notamment sur la situation en zone anglophone et les cas de violation des droits de l'homme, certains Camerounais trouvent désormais une réplique à Donald Trump, pris selon eux dans son propre piège de donneur de leçons.
Donald Trump décide de ce que, oh toi tu sors de la loi, tout le monde se tait. Voilà la grande Amérique qui donne des leçons de démocratie aux autres, mais qui n'est même pas en mesure d'appliquer les plus simples principes de la démocratie. Et ça c'est assez étonnant. Je suis toujours très déçu par les présidents qui ne réagissent pas vigoureusement quand de telles sorties se font.
On a l'habitude de dire chez nous en Afrique que avant d'accuser quelqu'un, il faut se rassurer que soi-même on est propre. Donald Trump n'est pas si propre que ça.
Les autorités camerounaises se sont jusqu'ici abstenues de commenter la procédure en cours contre le président Donald Trump. Yaoundé, Emmanuel Julntap, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, les forces onusiennes et étrangères sous le feu des critiques dans leur pays d'accueil. Des manifestations ont éclaté à Beni, dans l'est de la RDC, contre la MONUSCO, avant de se propager dans d'autres localités comme Goma et Butembo. Il est reproché aux casques bleus leur inaction face aux attaques des groupes armés. Au Mali également, la présence de la mission de l'ONU et des forces françaises est fortement critiquée. Qu'est-ce qui explique ce sentiment envers les troupes étrangères? Comment rendre leur mission plus efficace et mieux protéger les civils? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique.
C'est Thanksgiving demain, la plus importante fête traditionnelle ici aux États-Unis. Observé le dernier jeudi du mois de novembre, c'est aussi la période où les routes, les trains et les avions sont bondés. Presque tous les Américains veulent se retrouver en famille pour manger la dinde et la partager avec les étrangers ou les plus démunis. À Arlington, près de Washington, chaque année, la tradition est respectée pour faire la fête avec les réfugiés qui viennent d'arriver aux États-Unis. Lionel Gahima.
C'est un Thanksgiving assez particulier qui réunit à Arlington des habitants et des réfugiés arrivés récemment dans ce quartier de Virginie, non loin de la capitale américaine. Partager un repas pour une fête typiquement américaine. Kidis Tesfaye est arrivé aux États-Unis grâce à une ONG, le Conseil éthiopien au développement, qui aide les réfugiés à trouver du travail, des écoles et des endroits pour vivre.
Je suis vraiment contente de travailler avec les réfugiés.
Ce repas de Thanksgiving vise à souhaiter la bienvenue aux réfugiés qui viennent d'arriver aux États-Unis.
Le but, c'est de leur apporter l'amour et montrer que les États-Unis, c'est l'opportunité. L'Amérique est pour tout le monde, c'est ça le programme du dîner.
Être autour d'une table pour ce dîner de Thanksgiving est en quelque sorte un buffet multiculturel. Sadiq Ali Haidari est venu du Pakistan avec sa fille âgée de 19 ans. Je crois que c'est mon cinquième ou sixième Thanksgiving. Rayonnant de sourire, Chandra est originaire du Sri Lanka.
C'est très sympa. Je vois beaucoup de gens venus de pays différents et une nourriture différente.
Il n'y a pas de débat politique à ce dîner. Seulement les gens à table pour apprécier la bonne compagnie de la nourriture. Sarah Zulo est membre de l'ONG Conseil éthiopien au développement.
Lorsque des personnes partagent un plat, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Soudain, elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup plus en commun que de différences.
Embrasser ces différences est cela qui a permis à l'ONG de tenir plus de 30 ans. Le docteur Tesha Etefera, président et fondateur de l'ONG Conseil éthiopien au développement. Notre rôle dans le processus d'installation des réfugiés est de les intégrer à la communauté. Il n'y a pas meilleur moyen que Thanksgiving comme partie de ce processus. Ensemble, ces familles qui rêvent d'un avenir meilleur aux États-Unis rompent le même pain, suivant une tradition bien américaine.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.